Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Pauline de Tonnac, directrice de la maison éco-citoyenne des Landes. Elle nous vient de Mont-de-Marsan. Et nous avons aussi notre Marc, vous connaissez à connaître. Maintenant, vous savez qui c'est, et qui va m'aider, m'assister dans cette émission aujourd'hui. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Bon, on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir notre invité, son association qu'on a trouvé bien dynamique en préparant cette émission. Bon, ils font plein de choses, très sympa. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, nous voilà de retour. Donc aujourd'hui, on a Pauline de Tonnac, directrice de la maison éco-citoyenne des Landes à Mont-de-Marsan. Alors, première partie de cette émission, on demande toujours un petit peu aux invités de nous faire une petite présentation personnelle, une petite bio. Si Pauline veut bien nous raconter, mais qui est-elle?
Alors, j'ai grandi en Haute-Savoie, au bord du lac Léman, à Thonon-les-Bains. J'ai rencontré en terminale un comédien pendant mes années de lycée qui m'a donné envie de faire du théâtre. Donc, je suis partie à Genève une année faire le conservatoire de théâtre de Genève. Mmh. Et puis après, je suis rentrée à l'Acting Studio qui est à Lyon. C'est l'école de cinéma qui était gérée par Joëlle Sevilla, la maman d'Alexandre Astier. Donc, j'ai fait deux années là-bas. Les choses ont fait que pendant une année, j'ai travaillé en Suisse. Je suis revenue sur Genève pour pouvoir me payer une école, une haute école de théâtre que j'ai pas fait parce qu'entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. On est parti vivre ensemble à Strasbourg où là-bas, je me suis dit, je vais peut-être faire des études qui vont me permettre d'avoir un steak dans l'assiette à la fin de
la semaine. C'est pratique des fois.
Donc, j'ai pris des études un peu basiques. J'ai fait un BTS assistante de manager que j'ai fait du coup en alternance sur deux ans à Strasbourg. À la sortie de ça, j'ai trouvé un job à Genève dans une grosse entreprise qui fait des hôtels de luxe un peu partout dans le monde, le Mandarin Oriental. Après, je suis allée dans une autre entreprise. Je suis revenue en France, on s'est installé à Bordeaux avec mon mari actuel. De là, j'ai trouvé un autre travail. J'ai travaillé dans un espace de coworking qui s'appelle l'Atelier Zélium, qui fait de la menuiserie bois aussi. Et puis, en sortant de là, j'ai trouvé un nouveau travail avec Cédric Ringenbach, qui est fondateur de la fresque du climat, créateur de la fresque du climat, dont on pourra en parler un peu plus en détail après. Oui. Et donc, j'ai travaillé 6 années à ses côtés. J'ai été son assistante pendant 6 ans en 100% télétravail. Donc, j'étais sur Bordeaux, il était sur Paris. Et puis à côté, j'avais très envie de passer à l'action en ayant pris conscience de tout ça, parce que quand tu fais la fresque du climat, tu te prends quand même une énorme claque sur la réalité du dérèglement climatique. Donc j'ai voulu passer un peu à l'action et je me suis engagée aux côtés de Zéro Déchet des Grands Lacs, qui est basé à Biscarrosse. Donc là, j'ai commencé à faire quelques actions. Et j'y ai pris goût un peu, et contre toute attente, j'ai répondu à cette fiche de poste qui était sur Facebook de la maison éco-citoyenne qui cherchait une directrice, et je me suis dit je vais essayer, je vais voir si mon CV plaît et jusqu'où il plaît, parce que j'avais vraiment envie d'être dans l'action, d'aller plus loin dans ma manière d'avancer dans ce monde que je venais un peu de découvrir, quoi. Donc voilà, me voilà à la tête je suis directrice de la maison éco-citoyenne depuis février 2025. Et voilà pour mon parcours. Et à côté, du coup, j'ai deux enfants de 6 et 4 ans. Je suis toujours dans le CA de Zéro Déchet des Grands Lacs. Et voilà, je me suis mise à courir, je fais du jardinage.
Voilà. D'accord. Bon, on va mettre fin à l'entretien d'embauche, on vous prend. C'est bon.
Voilà. Merci. ça dépend du salaire. Quand même.
Il ne faut pas rêver non plus. Très bien, ça c'était une trajectoire. Merci beaucoup.
D'est en ouest.
Oui, c'est ça. Voilà. La seule chose que j'ai pas fait encore, c'est la Bretagne. Ça, ce sera pour la retraite.
D'habitude, c'est l'inverse. Mais c'est plutôt qui viennent ici. Mais c'est bien aussi la Bretagne. Ouais. Eh bien, voilà, on va parler maintenant de la maison éco-citoyenne des Landes, un petit peu son historique, qu'est-ce que c'est. Déjà, les locaux sont un petit peu particuliers, on peut dire ça quand même. Mm-hmm. Parce que c'est quand même l'ancien tribunal de justice de la ville de Mont-de-Marsan.
C'est ça, ouais.
Quelle idée.
Ouais, on a pris ce qu'on nous donnait, mais franchement, on n'est pas à plaindre. On a 350 mètres carrés de locaux. Mmh. Donc, il est mis à disposition. On paye le loyer auprès du conseil départemental de ce tribunal qui était vide et qu'on a récupéré, qu'on a mis à notre sauce. Il est loin d'être... maintenant, il est chaleureux, quoi. On a vraiment peint les murs, on a fait en sorte que ce soit chouette. On est allé s'installer du matos de chez Land Partage. On a chiné un peu partout. Mmh. Franchement, on s'y sent bien. Mmh. Donc on est installé là-bas. C'est là-bas aussi qu'on fait nos repair cafés parce qu'on a la place. On a la place d'accueillir aussi des scolaires, ce qu'on fait régulièrement. Je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais voilà, avec autant de mètres carrés, c'est sûr que on a de quoi faire.
Alors on avait remarqué que c'était marrant de constater que vous étiez passé d'un lieu de jugement, on condamne les gens, on les juge, à une attitude quand même bienveillante, puisque quand même c'est ce qui ressort de l'étude de votre cas, madame. Que vraiment c'est le vraiment le discours, la pédagogie, etc. qui prime. Ça peut être un clin d'œil du destin, peut-être une manière de présenter les choses.
Redonner des nouvelles ondes à ce lieu.
Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, un tribunal, c'est un endroit qui est conçu en général, ça dépend des villes, mais pour faire impressionner un petit peu.
Et oui.
Hein, alors pour ceux qui sont allés à Bruxelles, qui ont vu le tribunal, le palais de justice de Bruxelles, ça fait peur. On dirait.
Ah, c'est le but. Hein.
Il est monstrueux, gigantesque et tout. Et rien qu'en le voyant de loin, on se dit, ah non, je vais pas aller là-dedans, c'est la fin. Quoi. Voilà. Non, mais là, on n'est pas dans le jugement, on est plutôt dans la pédagogie.
Hein. Oui.
Voilà,
tout à fait.
Ça, c'est important. Donc, alors, qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi, globalement, vos activités? Bien sûr, on détaillera après, mais globalement.
On sensibilise les habitants du territoire landais à l'écologie de manière générale, au développement durable, et en leur donnant des solutions pour de l'éco-responsabilité. On veut vraiment avoir une approche ludique, joyeuse, pleine de bienveillance, en disant vous partez de tel ou tel point, mais on va vous accompagner à comprendre mieux ce que c'est, mieux ce qui se passe sur toutes les thématiques autour de l'écologie, et de le faire vraiment de manière à ce que les gens impriment, prennent conscience. Mettons pas non plus dans une anxiété. Voilà, on essaye vraiment de faire ça de manière joyeuse.
Sensibiliser sans culpabiliser.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui, on est vraiment, on accompagne pas à
même
pas.
Même si c'est pas facile tous les jours.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais il faut serrer les bouches des fois pour.
Oui, c'est vrai. Oui. On en parlait hors antenne, on plaisante parce que c'est vrai que ça a déjà arrivé d'assister à des scènes où on voit des gens qui sont dans leur voiture avec la clim à fond pendant 10, 15, 20 minutes, le moteur qui tourne parce qu'ils attendent un enfant à l'école ou que sais-je. On en de dire, dis donc monsieur, tu pourrais pas couper ton moteur par exemple, ce serait pas mal.
Ça démange. Et franchement, moi ça me démange faire ce genre de choses, mais après, bienveillance.
Voilà, non mais ce qui met en avant justement la nécessité de l'aspect pédagogique des choses, hein, voilà, c'est-à-dire que après les gens d'un certain âge, par exemple de mon âge, je crois qu'il y a un gap avec les jeunes de maintenant, parce que les jeunes de maintenant ils sont sensibilisés. Plus que nous, on est l'été. Voilà, nous, on s'en fichait. L'eau, elle coule, tant qu'il y en a. L'électricité, elle reste allumée tant qu'il y en a. Enfin bon, on ne s'est jamais posé la question, même si on a connu le choc pétrolier, le premier choc pétrolier pour les dinosaures dans cette salle. Il n'y en a qu'un.
Voilà,
Marc, il dit, bon, ça ne me concerne pas. Voilà. Mais c'est vrai que, du coup, quand même, je crois que les jeunes, ils commencent à entendre parler sérieusement de tout ça.
Moi, quand j'interviens dans les classes, je vois quand même qu'il y a pas mal d'élèves qui sont déjà au courant de beaucoup de choses, et je trouve ça trop chouette. En tout cas, c'est mes alliés pour ces ateliers-là, où je leur dis, toi, t'es mon copain, je vais t'embaucher à la maison éco-citoyenne parce que tu connais déjà pas mal de choses. Et il y en a de plus en plus. Mais aussi parce que c'est rentré au programme, en fait. Donc forcément, ça aide. Et puis, c'est des sujets qui les concernent directement. Et du coup, je pense qu'ils sont plus impactés et ils ont aussi envie de faire mieux. Enfin, à chaque fois que je lance une idée de faire un ramassage de déchets, il y a toutes les mains qui se lèvent en disant « Oui, j'ai trop envie de venir. » C'est trop chouette.
Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que quand on a eu la chance d'avoir des enfants à la maison et des ados, quand on leur propose de ranger la chambre ou de... Non, ben, ils n'ont pas du tout cette réflexion. C'est bizarre, hein. Non, mais c'est vrai.
C'est moins drôle.
Oui, c'est vrai, comme quoi, c'est pas pareil.
Mais nous, on a trouvé un subterfuge à la maison, on leur fait faire un espèce de jeu de rôle entre Wally et Eve. Voilà. Et
ah oui, 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 oui.
Et donc ça s'applique dehors quand on fait des ramassages de déchets. Mmh, qui fait Wally, qui fait Eve. Mmh. Et il faudrait qu'on essaye aussi à la maison de le faire pour la salle de jeu.
Ah oui, mais oui, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai qu'ici il y a pas mal d'associations. On n'est pas loin de la mer, hein, donc on a pas mal d'associations qui organisent beaucoup de ramassages sur la plage, pas que, hein, mais souvent c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais. On a les camélidés de l'Atlantique qui utilisent des dromadaires, hein, oui, pour, oui, ramasser les déchets qui sont bien souvent du plastique, hein, ça, ça, on est, ouais, d'accord, hein, ouais, c'est la majorité des déchets, hein, parce que les morceaux de bois flottés, c'est pas ça qui va trop nous pourrir la vie, hein, ça va, mais donc c'est vrai que quand même, bon voilà, c'est pas pour dire que il faut se croiser les doigts et s'asseoir sur nos lauriers, en dire ouais c'est bon, mais ça veut dire déjà quand même que on est dans la bonne direction, que cette procédure, cette démarche de sensibilisation des gens et surtout des jeunes porte quand même, je pense, enfin je veux dire, c'est un message d'espoir que j'essaye de transmettre aux gens, justement, de la bienveillance, et que apparemment c'est pas inutile ce que vous faites.
Non, apparemment pas, mais c'est vrai qu'on essaye de contribuer à ça, à sensibiliser le plus, parce qu'on dit qu'un enfant qui apprend quelque chose, il peut essaimer à cet adulte autour de lui, donc on vise quand même pas mal les voilà, scolaires pour ça.
Et oui, alors c'est marrant parce que c'est le contraire de ce qu'on attend de l'éducation. En général, on attend que les adultes éduquent les enfants, mais paf, on se fait avoir, hein, par derrière.
Les enfants éduquent leurs parents à la maison après, c'est ça qu'on veut.
Oui, très bien. Bon, on va déjà faire une première petite pause, écouter un petit peu de musique, on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec notre invité, Pauline, mais aussi Marc. D'ailleurs, Marc...
Et oui, dans la toute première partie, Pauline, on a discuté des jeunes générations, des actions de sensibilisation que vous mettiez en œuvre vis-à-vis des jeunes publics, et on voyait qu'il y avait quand même un changement générationnel par rapport à ça. Et ma première question, c'était de vous demander si c'était plus facile de faire de la sensibilisation auprès des jeunes publics que des adultes, ou l'inverse ?
Moi, j'ai plus de facilité à le faire auprès des jeunes publics.
Oui.
Parce qu'ils sont dans l'apprentissage, ils sont curieux d'apprendre des choses, de partager leur petite expérience. J'ai toujours les histoires des grands-mères qui font ça, bon, ouais, c'est assez drôle. Les adultes, je dirais qu'il y a deux types d'adultes, et parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir à cette question, mais je dirais qu'il y a ceux qui sont déjà sensibilisés,
réceptifs,
et qui ont l'habitude de venir à la maison éco-citoyenne et qui sont hyper curieux d'en savoir plus sur des sujets. Typiquement, dernièrement, on a fait la fresque du numérique avec des adhérents de la maison éco-citoyenne qui avaient vraiment envie de monter en compétence là-dessus, qui ont appris des choses. Il n'y avait pas grand-chose à convaincre parce qu'ils l'étaient déjà.
Oui.
Voilà, tous les ateliers qu'on propose à la maison éco-citoyenne, ils sont vraiment faits pour monter en compétence. Et le public qui passe les portes, c'est quand même des gens qui sont déjà sensibilisés.
C'est ça, oui.
Qui ont déjà ça qui coule dans leurs veines, quoi. Après, si ça nous arrive parfois d'intervenir dans des entreprises où les gens n'ont rien demandé, et c'est la direction qui a décidé de nous faire intervenir, on peut se retrouver face à des personnes qui sont sceptiques sur ce qu'on leur apporte, ou alors qui connaissent plus de choses que toi, ou qui ont l'impression de connaître plus de choses que toi,
oui,
et du coup qui coupent un peu ton animation, et ça peut être un peu déstabilisant. J'ai beaucoup de préférence pour les élèves. J'adore les élèves de primaire parce que ils savent trop bien s'exprimer, ils sont hyper curieux, ils ont pas peur de prendre la parole, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on fait le plus à la maison éco-citoyenne.
Mais c'est vrai que ce phénomène d'attirer les gens qui sont déjà plus informés, c'est un peu le syndrome, je veux dire, de la réunion parents-prof, où c'est les parents des élèves qui travaillent bien qui viennent voir le prof pour entendre des compliments, mais c'est pas ceux pour qui ce serait plus efficace de venir. Donc du coup, vous avez entre guillemets une part de marché importante à gratter. Et gratter pour essayer de récupérer justement des gens qui sont pas déjà super informés et tout.
Mais
donc c'est ça la difficulté, en fait.
C'est une réflexion que j'ai régulièrement, c'est me dire, est-ce que je perds mon énergie? Est-ce que je donne mon énergie, allez.
Ouais.
Est-ce que je donne mon énergie à des gens qui n'ont pas envie d'avoir cette réalité-là, qui n'ont pas envie de savoir ou qui n'y croient pas? Est-ce que je vais donner de ce temps-là à cette personne-là?
Oui.
Ou alors, est-ce que je vais aller vers des gens qui ont envie d'en savoir plus,
oui,
et
oui,
qui,
oui,
eux, à leur échelle, après, vont pouvoir essaimer autour d'eux,
oui, oui.
À ma... pas à ma place, mais vous voyez ce que je veux dire,
oui,
sur d'autres personnes que je n'aurais pas
compris.
Pu atteindre.
Ouais, j'ai bien compris que vous utilisez les enfants comme cheval de Troie.
Exactement. Tu apportes une information à un gamin qui rentre chez lui et qui dit à ses parents, truc basique, mais en fait, pourquoi on ne fait pas le tri alors que c'est simple et que ça peut être valorisé. Et moi, je sais que quand je me prends des scuds de mes enfants, parce que ça m'est arrivé genre de prendre la voiture pour faire 1,5 km et que ma fille, elle m'a dit, mais maman, pourquoi on prend la voiture? Pourquoi on n'y va pas en vélo? Voilà, je suis traumatisée. Donc en fait, la puissance d'entendre ses enfants pouvoir tiquer sur des choses, c'est quand même fort.
Bien sûr. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle d'une chose, parce qu'on a déjà parlé souvent, plusieurs fois avec des invités ici, puis bon, vous avez vraiment été au corps du dispositif, c'est cette fameuse fresque du climat, parce que déjà, le terme lui-même, qui dit fresque, dit quelque chose de pictural, de graphique, mais qu'est-ce donc que la fresque du climat? Est-ce qu'on peut résumer un petit peu, expliquer ça aux auditeurs?
Ouais, ça marche. La fresque du climat, est-ce que je fais l'historique ou on n'a pas le temps?
On a une prochaine pause dans 4 minutes, mais allons-y.
C'est l'histoire de Cédric Ringenbach qui était professeur auprès d'ingénieurs qui a en fait imprimé ses slides de PowerPoint de ses cours en se disant, en fait, le côté descendant ne marche pas, du coup je vais imprimer mes slides et je vais demander à mes élèves de relier ces slides-là. Et en fait, lui est venue l'idée de créer cette fresque du climat. Donc en fait, il est monté en compétence sur le rapport du GIEC. Il a lu les 3000 pages du rapport du GIEC, c'est absolument imbuvable. Ouais. et il a créé 42 cartes qui synthétisent le rapport du GIEC. Et en fait, le but de la fresque du climat, c'est autour d'une table, on est entre 6 et 8 participants sur une table, avec un animateur. On prend ces cartes-là et on les relie des causes à effet autour du climat. L'outil est tellement chouette, il est tellement puissant, ça se joue en 3 heures.
Il est ludique.
T'apprends vraiment tellement de choses en 3 heures. L'intelligence collective, les connexions se font rapidement que, en fait, c'est devenu un monstre. Et en fait, le côté fresque a été décuplé. Maintenant, il y a plus de 200 fresques amies qui existent. Et nous, à la Maison Éco-Citoyenne, on propose aussi d'autres fresques que celles du climat. Et donc, il y a la fresque de la biodiversité, de la forêt, de l'océan, du sexisme, du racisme,
sur le même principe, quoi.
Tout, de l'ESS, voilà. Et donc, pour la petite histoire, moi, j'ai travaillé du coup 6 ans avec Cédric Ringenbach. Et quand je suis entrée avec lui dans son entreprise, il y avait 2000 personnes qui avaient joué à la fresque du climat. Et aujourd'hui, il y a plus de 2,5 millions de personnes maintenant qui ont joué à la fresque du climat.
Ça a dépassé les frontières de la France aussi.
Oui, ça a été traduit, je crois que ça a été traduit dans 50 langues, c'est joué dans plus de 60 pays.
Ah oui.
C'est au sein d'entreprises, des choses comme ça. Il y a un chef d'entreprise qui dit, je vais faire un team building avec mon équipe, on fait venir quelqu'un de la fresque du climat et on les met en situation, ce genre de choses.
On peut, ça se fait souvent. Après, il y a des milliers d'animateurs, donc il suffit d'aller sur le site de la fresque que tu veux animer. Et après, il y a un animateur qui vient te jouer partout, en fait. Collectivité, entreprise, association, grand public, tu peux te foutre dans la rue, tu peux le faire auprès de tes potes à l'apéro, enfin 3 heures d'apéro, mais...
Non, mais
enfin, je sais qu'il y en a qui ne dérangent pas. mais voilà, après, les tarifs sont différents, que tu sois une entreprise, une asso, ou que ce soit un grand public.
Oui, c'est vrai que les entreprises sont friandes des techniques, genre les jeux de rôle, etc. Voilà, donc c'est vrai que... Puis on dit encore une fois, c'est une manière aussi de faire passer le message d'une manière différente.
C'est très impactant, en tout cas. Ouais. Vraiment, le fonctionnement marche vraiment bien.
Oui, mais on peut considérer ça comme un jeu de société. D'ailleurs, est-ce qu'il existe ou prévu un dérivé, genre je vais au magasin de jouets et j'achète un jeu de société, fresque du climat, avec des cartes qui...
Elle n'est pas dans des magasins, mais elle s'achète en ligne. Mais par contre, après, en fait, pour jouer à la fresque du climat, donc tu le fais auprès d'un animateur la première fois, tu joues avec quelqu'un qui est animateur, et après, si toi tu veux devenir animateur, il faut que tu fasses une formation de 3 heures pour devenir animateur. Après, tu peux devenir formateur d'animateur, et après tu peux devenir formateur de formateur. Et ça marche en ceinture. Tu passes de ceinture blanche, jaune, orange...
Entre le judo et les Tupperware, tu sais.
On peut pas décider de jouer à la fresque du climat, d'aller l'acheter et puis de se dire tiens j'y vais. Il faut vraiment, vraiment passer par la formation.
D'accord, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que sur internet j'en ai vu passer des gens étiquetés fresque du climat, etc.
Assermenté.
J'ai vu ça.
Et il existe la fresque du climat junior pour les enfants de moins de Attends, c'est à partir de 8 ans.
C'est vrai.
Et du coup, elle se joue
adaptée,
en 2 heures.
Ouais. D'accord, ben on enverra à Monsieur Trump alors. Alors, on va faire une, on va faire une deuxième pause.
On va faire un peu de joie, je pense.
Bah oui, on va faire une deuxième pause. On va écouter le flash info local et on se retrouve ensuite. Parlons donc un peu encore de cette maison éco-citoyenne des Landes. Vous faites beaucoup d'actions, y compris des ateliers, etc. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? Donc, il y a pas mal de choses avec les jeunes. On s'en a compris que c'était important dans votre ADN.
Mmh, ouais. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs actions. On a donc des scolaires qui viennent à la maison éco-citoyenne. Nous on va dans les écoles aussi. Mmh. On fait de la sensibilisation pour tous les âges, hein, de 4 ans jusqu'à post-bac. On intervient aussi sur des événements. En 2025 par exemple, on était présent avec Arte Flamenco, avec le Festival EB, la Route des Imaginaires et tout ça. Et là cette année il y en a encore pléthore sur lesquels du coup on vient avec des stands sur différentes thématiques. On fait aussi j'appelle ça des animations clés en main, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me sollicite et qui me dit tiens, est-ce que tu peux gérer cette animation? Je te file les gens qui viennent et c'est toi qui animes. On fait du grand public avec nos repères café, avec nos propositions de fresques. Tous les mercredis soirs on a un atelier bidouillage, c'est de la revalorisation de déchets. On fait par exemple aussi des marches du temps profond. On a organisé en octobre 2025 un festival qui s'appelle le festival Ecolomome. Et puis le Free Friday, donc ça c'est vraiment les deux gros événements qui sont organisés par la maison éco-citoyenne. Le festival Ecolomome, c'était du coup 2 journées pour les enfants. On était avec une trentaine de partenaires sur plein de thématiques autour des objectifs du développement durable et toujours à travers le jeu. On le refait pas en 2026, on le reconduit en 2027. Ouais. Et le Free Friday, c'est un pied de nez au Black Friday.
Oui, ça c'est pas mal, ça.
On trouve ça
c'est sympa. Ouais.
Donc on reçoit les dons la veille du Black Friday à la maison éco-citoyenne et puis au cercle des citoyens de Mont-de-Marsan. Et l'année dernière, on a récolté 21 tonnes, je crois. Non. Si, c'est possible. Ouais, c'est possible. Non, 21 mètres carrés, 21 mètres cubes, n'importe quoi. Ce qui est pas mal. Et en fait, le vendredi, pied de nez au Black Friday, donc on appelle ça le Free Friday, tout le monde vient se servir gratuitement.
C'est pour du textile et des vêtements principalement, ou ça peut être des jouets, de l'électroménager, des choses comme ça?
Ouais, électroménager, jouets, livres, textiles, bijoux, tout ce qui se donne. Donc c'est assez chouette. Et là, cette année, on aimerait le faire à dimension départementale. Donc si parmi vos auditeurs, il y a des structures qui souhaiteraient s'allier à la maison éco-citoyenne pour ce Free Friday à échelle départementale, faites-moi signe.
Ah oui, alors moi je pense au sel, le sel du lac, c'est un système d'échange local, on les a reçus ici et ils font des initiatives de ce genre-là où les gens viennent donner des choses et après c'est comme un vide-grenier mais c'est gratuit.
Ok, voilà. Et bah, parfait.
Voilà, donc je pense que ça serait. Ah ben voilà, allez. Ben ouais, mais c'est ça la force des associations, c'est le réseau. Hein.
Ouais, tout à fait.
C'est le réseau.
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On intervient aussi parfois auprès de professionnels. Donc vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de sensibiliser vos salariés, on peut venir. On fait de la mise à disposition de notre lieu pour des associations qui œuvrent pour les mêmes qui ont les mêmes valeurs que nous, quoi. Parce que avec l'immensité de notre
tribunal.
Local, on peut prêter des salles de réunion. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? On accueille aussi des ateliers partenaires si vous faites des ateliers qui sont en lien avec la revalorisation de déchets ou avec de l'alimentation durable ou quoi. Et on peut vous accueillir à la maison éco-citoyenne, on fait de la communication, puis vous faites votre atelier chez nous, quoi. Voilà.
Et vous avez aussi, on voit ça sur votre site, alors ça servira Jean-Philippe et moi aussi pour notamment pour rechercher des invités et des acteurs qui ont, comme vous dites, les mêmes valeurs que vous. Vous avez sur votre site internet une carte interactive interactive, on peut cliquer et tout, qui répertorie toutes les associations ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire ou de du développement durable, etc.
Ouais, et c'est les acteurs éco-responsables. Acteurs éco-responsables.
On peut mettre des filtres, donc il va y avoir aussi bien des marchés ou alors là.
Tout à fait. Il y a des acteurs éco-responsables qui sont basés sur l'habitat, sur l'alimentation, sur les recycleries. Il est assez fourni. Et en fait, vous, en tant que visiteur, vous pouvez aussi abonder. C'est-à-dire, vous pouvez dire moi, je connais quelqu'un qui a une association, une entreprise ou quoi, qui œuvre dans ce sens-là.
Ouais.
Et puis derrière, on a deux modérateurs bénévoles de la maison éco-citoyenne. Qui check.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, maison éco-citoyenne des Landes, toutattaché.fr. Hein.
Ouais, ça, c'est notre site général. Voilà, mais si général, vous voulez cette carte interactive, elle s'appelle Landes-engagé. www.ees.fr.
Ouais. Bon, de toute façon, il suffit que je mette un lien dans le club podcast, donc les auditeurs pourront cliquer dessus pour aller directement. Hein.
Ouais.
Voilà. Et voir autour de chez eux, voilà, quels sont les acteurs.
Et oui, en plus, si c'est collaboratif, si on peut rajouter des choses soi-même, c'est, c'est top, quoi. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Et donc, ah oui, les Ripper Café, donc on a en parlé ici avec, j'allais dire, c'est souvent des Fab Labs aussi qui participent au Ripper Café, parce que dans la démarche, c'est très compatible, on va dire. Donc, vous faites ça, comment c'est les gens, ils arrivent avec des choses en panne eux-mêmes, ils les amènent, parce qu'on a parlé avec Pluceo, eux, ils ont une démarche un peu différente, un peu plus, on va dire, commercial, hein, dans leur manière de fonctionner qu'un Fab Lab classique. Comment est-ce que ça fonctionne, vos Ripper Café?
Donc nous, c'est tous les derniers samedis du mois. C'est ouvert de 9h à 15h30. On a une dizaine de bénévoles qui sont sur place et chacun a ses petites spécificités. Je prends toujours l'exemple du grille-pain parce que je crois que c'est ce qu'on a le plus. Ah non, c'est les machines à café. On a sa machine à café qui déconne, donc on arrive, on est accueilli, on pèse en fait votre machine à café parce qu'après nous on rend des comptes aussi. On a envie de savoir combien on a sauvé de la déchetterie. Combien on a sauvé de kilos de la déchetterie. Et en fait, après, sur petite salle d'attente en attendant, café, biscuits,
Docteur.
Oui, mais en attendant. Ouais. Du coup, on demande aussi aux gens de participer. Donc, on a des boîtes à dons. On met aussi à dispo des cafés et des biscuits et des gâteaux qui sont préparés par nos bénévoles en plus. Donc, trop sympa. Et puis après, on vient avec le bénévole qui vient nous chercher. On se met autour d'une table et on participe au démantèlement de notre machine à café.
Et à la réparation.
Et voilà, et tout à fait.
Sous l'œil avisé d'un bénévole dont c'est un peu la spécialité, c'est ça ?
Tout à fait, ouais. En fait, le but, c'est vraiment de dire, ben voilà, là, votre panne, elle est comme ça, et monter aussi en compétence. Peut-être que la personne, elle puisse se dire, ah ben en fait, j'aurais pu le faire.
Déjà, ça sensibilise au fait qu'effectivement, on peut peut-être des fois réparer un petit truc plutôt que de le jeter.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Et donc voilà, une fois que ça s'est fait, et ben ils repartent. Nous, on valide dans notre tableau que la chose a été réparée ou pas. Et comme ça, après, on peut voir combien de kilos on a sauvé de la déchetterie. Et je voulais dire un truc, puis j'ai oublié, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous mensuel qui marche bien tous les derniers samedis du mois, sauf juillet, août et décembre. Voilà. Ouais. Au 5 rue du 8 mai 1945 à Mont-de-Marsan. Et il faut savoir qu'il y en a de partout dans les Landes, donc des Ripper Café. Ils sont notamment répertoriés sur la carte des Landes engagées. Ouais.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on a pas mal aussi de recycleries, etc. Le circuit économie solidaire et tout, ça se fait pas mal. Hein. Comme on disait, alors je veux dire que c'est Confucius, parce que quand il y a un dicton, on ne sait pas qui c'est Confucius. si ton voisin a faim, plutôt que de donner du poisson, apprends-lui à pêcher.
Et oui.
Tout à fait.
Hein, c'est pas beau ça ?
C'est pas mal.
Confucius a dit beaucoup de choses, il est très fort. Hein.
Ah putain, mais c'est ça que je voulais dire, pardon, j'ai dit un gros mot. Une fois par mois aussi, on fait des soirées bricolage. Donc en fait, on propose aux gens de venir et de monter en compétences pour réparer en fait eux-mêmes à la fin.
Oui, encore une fois, l'aspect pédagogique, hein, voilà, que les gens soient aussi responsables face aux problèmes qu'ils ont à gérer, pas juste, qu'ils puissent penser que c'est une manière de faire des économies d'argent en laissant quelqu'un gérer leurs problèmes à leur place. Parce que c'est ça en fait, le petit problème de l'environnement, de l'écologie, c'est de pas croire que c'est un problème qui concerne que les autres, en fait. C'est un message qui est difficile à faire passer, ça.
C'est clair.
Je vois la moue de notre invité, un peu dépité, elle dit, mince, il a mis le doigt là, où ça fait mal.
Et donc, qu'est-ce qu'on va parler des poissons?
Ouais, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est bien. Alors du coup, bon, j'ai vu quelques chiffres, et bon, on va pas parler de vraiment chiffres, mais bon, il y a pas mal de jeunes qui sont passés entre vos mains, quand même, depuis la création de l'association. Et vous travaillez, du coup, en partenariat avec plein d'institutions, des établissements scolaires, d'autres associations, le département, donc
Alors, les chiffres déjà. L'année dernière, on a sensibilisé presque 5000 personnes, dont 1003 élèves. On est une association donc privée, loi 1901 d'intérêt général. Subventionné une grosse partie par le conseil départemental. En fait, toutes les animations qu'on fait, toutes nos interventions qu'on fait, on les fait payer parce que ça assure aussi le salaire, l'allocation du local, etc. C'était quoi l'autre question ?
Les partenariats, mis à part le nombre de personnes que vous aviez touchées dans l'aspect pédagogique, avec qui vous travaillez ?
Eh bien, on travaille. Bah, pour le Free Friday, typiquement, on travaille avec le Cercle des citoyens. Mm-hmm. Je travaille pas mal avec le club de Mugron. C'est un Fab Lab qui est à Mugron, avec Pulseo, chez qui j'étais avant de venir ici. J'ai co-worké là-bas.
Oui.
On a tellement d'interlocuteurs. Si c'est pas des partenaires, c'est des clients. Mm-hmm. Enfin, des clients. Des personnes avec qui on va chez qui on va intervenir. La liste est longue quand même.
Combien d'années d'existence la maison éco-citoyenne?
Elle a été créée en 2022.
En 2022, s'il y a 5000 personnes qui ont été sensibilisées, Jean-Philippe, on est à plus d'1% du département. Ça veut dire qu'il y a plus de 1 landais sur 100 qui est passé entre les mains de la maison éco-citoyenne. Félicitations.
Merci. Je ne sais pas quels étaient les chiffres au début de la création.
En 4 ans.
Mais c'est vrai que là, le festival Ecolomome, il a quand même ramené à peu près 1500 personnes. Donc, ça restait un gros chiffre. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. On touche quand même beaucoup de gens du Marsan. Et puis peut-être un peu toujours les mêmes aussi. Donc, c'est aussi un appel à se dire, et si on essayait de toucher des gens.
C'est pour ça aussi que vous êtes là. C'est-à-dire que même si on n'est pas juste à côté, et même que ce sont de ville foncièrement ennemie, bien sûr,
ah bon,
on rentrera pas dans les détails. Mais oui, pour certaines raisons ovales, on va dire. Okay. Hein. Entre autres.
Chose qui
mais voilà aussi, c'est ça aussi, c'est qu'il faut bien étendre le réseau entre les associations, la cause étant commune.
Oui, hein. Tout à fait. Oui, on est tous habitants de la même planète, on est tous dans le même bateau et on va tous au même endroit.
Voilà.
Et puis finalement, nous, on est la maison éco-citoyenne des Landes, et pas forcément que du Marsan, mais c'est vrai que comme on est basé sur Mont-de-Marsan, on a plus de facilité à toucher les Montois.
Très bien. Eh bien, on va faire une dernière pause et on va attaquer gentiment la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et nous voilà à la fin de cette émission. Ça passe trop vite avec Pauline. C'est sympa. Puis c'est quand même une asso qui fait vraiment beaucoup de trucs. C'est vraiment chouette. Justement, c'est le moment de parler un petit peu de l'actualité. Que se passe-t-il? Quels sont les prochains événements à mettre en lumière?
Alors, vous allez pouvoir nous retrouver sur pas mal d'événements qui vont se passer dans les Landes. On sera à Tartas le 14 mai pour la journée qui est organisée par le ASA. On sera au Festival des Enfants le 17 mai à Rion des Landes. On fera un ramassage de déchets avec le Pôle Jeunesse de Mont-de-Marsan le 23 mai. On aura la fête du jeu à Saint-Paul-les-Dax où on amène des jeux qu'on a créés avec Pulseo, avec Makeo.
Génial.
On sera au Festival de l'Est à La Bouère, on sera à l'Écho des Pins à Castets, on sera au Festival des Lutins à Lu au mois de juin et juillet, tout ça. Bref, suivez-nous sur les réseaux sociaux, comme ça vous en saurez plus.
Bien
et
sûr.
Puis les gros projets à venir, on voudrait accompagner les éco-délégués à la rentrée 2026 des collèges et lycées. Donc on va préparer ça, si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter. On a notre exposition plastique qui est dans les locaux de la maison éco-citoyenne qu'on va rendre ambulant, donc si vous souhaitez afficher dans votre médiathèque, n'importe où, pareil, contactez-nous. On a un projet photo écologie femmes des quartiers prioritaires à Mont-de-Marsan avec le café musique qui va se faire début juillet, et puis on a toujours notre projet de vélo broyeur pour revaloriser du coup des restes de bouteilles plastiques. Le but, ce serait d'arriver à mixer ces bouts de plastique là pour en faire, pour les mouler après, enfin les revaloriser d'une certaine manière.
L'impression 3D ou moulage, etc.
Exactement, on a déjà un début de projet qui avait été initié et qui nous a permis d'avoir des fils pour imprimantes 3D qui sont revalorisés, mais là on cherche vraiment à redonner une seconde vie au bout des bouteilles plastiques. Et donc on cherche des partenaires qui pourraient nous aider à monter ce projet-là de vélo broyeur, donc appel à candidature.
Intéressant, puis en plus ça fait faire du pédaler.
Oui, tout à fait.
C'est
l'huile de genoux pour le coup.
Association hyperactive. Impressionnant.
Ma foi, je trouve.
La maison éco-citoyenne des Landes.
Voilà. Alors on se disait d'ailleurs, Marc nous disait en regardant, mais il se demandait au début si c'était pas une licence presque, qu'il n'y avait pas une dans chaque.
S'il y avait un réseau national, etc. Parce que
Ça semble évident quand on, voilà, on se dit tiens, mais c'est
mais finalement non.
Ouais, non, c'est, oui, du coup, c'est une asso privée. On a choisi le nom de la maison éco-citoyenne par sondage auprès des Landais. Il y en a une à Bordeaux, hein, c'est la maison éco-citoyenne de Bordeaux Métropole. Mais non, on est vraiment indépendant. Moi, je suis la seule salariée.
Vous dites on, Pauline, depuis tout à l'heure. Oui, il y a des bénévoles, etc.
Il y a des bénévoles, il y a un conseil collégial et tout ça. Mais oui, pour l'instant, je suis seule salariée.
Ben bravo.
Félicitations, bravo.
Merci beaucoup Pauline d'être venue nous parler de cette maison éco-citoyenne des Landes, donc à Mont-de-Marsan. Et donc vous nous avez donné une petite liste d'actualité. Il y aura bien sûr des liens sur le podcast, notamment le lien votre site. Et puis cette fameuse carte aussi qu'on a trouvé vraiment très chouette, carte interactive là des acteurs de la région. Voilà, c'est vraiment très sympa. Et bien merci beaucoup d'être venu et d'avoir fait tous ces nombreux kilomètres en train.
Bien sûr, et en covoiturage pour rentrer. Avec plaisir, merci de l'invitation.
Merci beaucoup, au revoir.
À bientôt.